Sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ma France. Je vous raconte toute l'actualité jusqu'à 13h avec un redoutable épisode de gel, ennemi juré des viticulteurs et des arboriculteurs. Un gel aussi violent sur une végétation aussi en avance. C'est du jamais vu depuis 1991 pour Fabien, viticulteur en Provence.
On voit vraiment le changement dans les années futures. On va être malheureusement à chaque fois prié au mois d'avril pouvoir pour pas que nos exploitations ne gèlent pas.
Et ce fut rude dans le Jura aussi cette nuit, mais aussi dans le Tarn, dans le Vaucluse, en Auvergne ou dans le Nord. Nous sommes sur le terrain avec des agriculteurs, avec les systèmes D dégainés également. On vous parle aussi des nouvelles règles de l'assurance chômage pour faire des économies, pour atteindre le plein emploi. Le gouvernement reprend la main et les partenaires sociaux, on entendra la CFDT, montent au créneau. Et puis à 12h30, nous sommes en duplex de Strasbourg qui devient pour un an, à partir de ce mardi, capitale mondiale du livre. C'est un label attribué par l'UNESCO, pour la première fois d'ailleurs à une ville française. Une ville en fait, vous l'imaginez, autour de la lecture, avec le public, les libraires, les auteurs, les éditeurs associés qui nous en parlent, et l'association Lire et Faire Lire partout en France. Votre plaisir de lecture, vous pouvez nous en parler, 0810 055 056.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Et avant de parler de cette vague de gel et de ses conséquences, on va parler du froid dans les relations entre les partenaires sociaux et l'État. Puisqu'aucun accord n'a été trouvé sur les nouvelles règles de l'assurance chômage, eh bien le gouvernement reprend la main. Bonjour Olivier Guivarch.
Bonjour.
Vous êtes à nos côtés, secrétaire national pour la CFDT. La page est blanche, voilà ce que dit en tout cas la ministre du Travail. Mais ce qui est sûr, c'est que les règles, les nouvelles règles doivent être fixées avant le 1er juillet. Sur la manière, Olivier Guivarch, dont l'État veut parvenir, un, à faire des économies et deux, à atteindre le plein emploi, êtes-vous convaincu que les chômeurs seront lésés dans ce qui s'élabore ?
Alors on espère qu'ils ne le seront pas, mais c'est vrai qu'on n'en prend pas le chemin. Je voudrais d'abord pointer la responsabilité des organisations patronales, des organisations qui représentent les employeurs, qui n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités quand on a négocié le maintien en emploi des seniors et qui n'ont pas voulu non plus prendre des responsabilités sur la lutte contre les stéréotypes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, c'est vrai, l'absence d'un accord et le gouvernement qui voudrait reprendre la main. Mais tout dépend de la manière dont il va reprendre la main, parce que on n'est pas obligé de durcir les règles d'indemnisation des chômeurs. Réduire les droits des chômeurs, de toute façon, n'a pas de conséquences positives sur le retour à l'emploi.
On n'emploie pas plus quand on est patron.
En l'état actuel de l'économie.
Ouais, on n'emploie pas plus quand on est patron et quand on change ses règles, notamment des conditions d'affiliation, d'attribution.
Non, les employeurs le disent eux-mêmes. On dégrade les conditions d'existence des demandeurs d'emploi. On s'en prend aux chômeurs, mais ça ne change rien au fait qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Il y a des problèmes d'adéquation, des problèmes de formation, d'adéquation entre l'emploi en fait et la demande d'emploi. Et ça ne se résout pas en s'en prenant aux droits des chômeurs actuels. Ça ne sert à rien, les économistes le disent, beaucoup de chefs d'entreprise le disent. Et c'est très regrettable si le gouvernement n'entend pas ces vérités.
Ça veut dire que comme la CFE-CGC, vous soutenez qu'il s'agit là d'une mesure populiste, démagogique, à tout le moins, Olivier Guivarch, est-ce que c'est aussi votre point de vue ?
Pour le moment, on ne peut pas qualifier les mesures qui seront prises puisqu'on ne les connaît pas. C'est-à-dire que là, on est dans un laps de temps où le gouvernement dit qu'il réfléchit, mais pour l'instant, il ne nous a pas demandé notre avis.
C'est ça, mais il va falloir aller
et
vite.
Il ne nous a pas expliqué ce qu'il voulait faire. Donc, nous voulons déjà nous faire entendre et savoir ce qui est envisagé pour pouvoir éventuellement influer, parce que il y a des mesures qui seront contre-productives et qui ne résoudront pas le problème de l'emploi.
Ce que vous savez, à la CFDT comme ailleurs, c'est qu'Emmanuel Macron vise toujours le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage à 5%, qu'on est aujourd'hui à 2,5 au-dessus. Changement de méthode qui s'annonce donc, puisqu'il y a 2 ans, il promettait que quand ça va bien, on durcit les règles, et quand ça va mal, on les assouplit, donc on est là-dedans. Les chômeurs seraient des privilégiés, c'est la petite musique qui monte parfois, et c'est un discours que les intéressés, évidemment, ne peuvent entendre, et qui s'inquiètent de voir les conditions d'attribution durcies, leur prise en charge moins longue. Willy Moreau en a rencontré une.
Après un licenciement économique il y a un an et demi, Farida, 31 ans, ex-commerciale basée à Marseille, est aujourd'hui au chômage.
Je touche un chômage de 1400 euros.
Très agacée par les discours qui pointent du doigt les chômeurs.
On ne vit pas avec 1400 euros. Maintenir un espèce d'imaginaire collectif du chômeur qui fout rien, qui attend juste de toucher les allocations et puis qui utilise l'argent des allocations pour se payer des abonnements Netflix me semble complètement absurde.
Gabriel Attal a évoqué trois leviers possibles, la durée de l'allocation, son montant et le nombre d'heures travaillées pour la toucher. Mais Camille, pâtissière au chômage, ne comprendrait pas un nouveau durcissement.
La règle actuelle, elle t'encourage à trouver du boulot parce que les conseillers Pôle emploi déjà te proposent des formations et puis parfois il faut prendre du temps aussi sans travailler pour préparer son avenir. Voilà, moi je voudrais passer mon permis par exemple.
Le chômage n'est pas que du temps perdu, renchérit Farida. Elle s'est beaucoup agacée il y a un mois quand Gabriel Attal a évoqué une durée d'allocation réduite à un an.
En sachant que certaines formations pour vraiment être efficaces dans les secteurs visés peuvent durer un an ou plus. Je comprends pas.
Pour Farida, il faut davantage de moyens dans l'accompagnement professionnel. C'est d'ailleurs dans cette voie qu'elle se reconvertit. Elle a postulé pour être conseillère chez France Travail.
Olivier Guévarche est avec nous, secrétaire national de SFDT. Comme syndicat protecteur des travailleurs, est-ce que vous faites le même constat que Farida à l'instant ? L'accompagnement des chômeurs doit évoluer en France ?
Oui, l'accompagnement est très important. Je trouve que ce reportage, c'est très important de le faire connaître parce que ça donne aussi un peu de réalisme et d'humanité dans ces débats. Et ça, on en manque parfois. Je voudrais rappeler, la CFDT le rappelle tout le temps, qu'il y a entre 5 et 6 millions de demandeurs d'emploi, de demandeuses d'emploi. Ce sont nos concitoyens.
Et aujourd'hui, combien de postes vacants?
Moins de la moitié.
Oui.
Mais des postes vacants, il y en a... alors, c'est difficile à établir, je dirais, au poste près, mais on est autour de 300, 400 000 postes
vacants. Donc on comprend bien le ratio. Oui.
Et on a moins de la moitié des personnes inscrites à France Travail qui sont indemnisées. Et ça aussi, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que moins de la moitié des personnes qui sont au chômage touchent une indemnisation. C'est-à-dire que les autres cherchent un travail, mais ne sont même pas indemnisés parce que l'emploi précédent, eh bien, le contrat, le nombre d'heures travaillées, ça ne suffit pas pour être couvert. Et donc, quand on parle de durcissement des règles, de toute façon, ça n'a pas de répercussion sur plus de la moitié des personnes inscrites à France Travail. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas la mesure qui est nécessaire pour revenir au plein emploi, ce que nous souhaitons tous.
Laquelle portez-vous avec la CFDT, compte tenu de la vigilance dont vous faites preuve aujourd'hui, Olivier Guivarche?
Ah, c'est plus que de la vigilance. On est quand même très inquiet du fait que ces demandeurs d'emploi, ces demandeuses d'emploi ont besoin d'être accompagnés. Quand il y a des besoins de formation, on doit pouvoir y répondre. Quand il y a des difficultés, des freins à l'emploi, il faut travailler sur ces freins-là. Et quand il y a des besoins de mobilité géographique, personne ne se pose la question de savoir comment on peut aider pour qu'il y ait de la mobilité. Ce qui est sûr, c'est que on a une pauvreté qui augmente. Selon l'INSEE, on a 550 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté. On a une baisse des allocataires à France Travail, c'est-à-dire que de plus en plus des personnes n'ont plus accès à de l'indemnisation. Mmh. Et le million de demandeuses et demandeurs d'emploi touchés, ça concerne en particulier des jeunes, des femmes, des contrats courts, c'est-à-dire les plus vulnérables. Et c'est un débat de société. L'opinion publique est à interroger sur cette politique, parce que s'en prendre aux plus vulnérables,
alors justement, ouais.
Eh bien c'est une politique qui doit être débattue. Mmh. Nous sommes plus qu'inquiets.
Nous avons un auditeur qui nous rejoint sur cette question et sur la manière aussi dont le gouvernement veut finalement aborder ce questionnement, ce passage au plein emploi et la situation des chômeurs. C'est Aurélien qui nous rejoint au standard de France Bleu. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de prendre la parole.
Écoutez, moi c'est simple en fait, j'ai 45 ans aujourd'hui, oui. Je suis contrôleur de gestion, j'ai eu l'occasion de bosser dans pas mal de boîtes parce que j'ai eu une carrière relativement hachée suite à des accidents de la vie, comme on peut appeler. Donc j'ai eu l'occasion de voir l'évolution des conditions dans lesquelles on est admis à toucher des indemnités de chômage en tant que cadre plus ou moins supérieur. On voit que l'indemnisation, elle est quand même très largement tronquée depuis quelques années. Et aujourd'hui, moi, je considère que, en fait, l'annonce du gouvernement, c'est simplement, ils veulent récupérer un peu de budget, puisque c'est pour régler la dette. En fait, ils veulent simplement, ils vont taper sur les plus faibles, parce que c'est pas les chômeurs qui sont responsables de leur situation. Moi, j'étais en intérim dernièrement. Les contrats sont pas renouvelés. On les renouvelle le plus souvent possible, légalement possible. Et même si on convient au poste, on vous remercie gentiment en disant on peut pas vous intégrer dans l'effectif parce que question budgétaire, ça nous coûtera moins cher de prendre des intérimaires.
Et taper sur les plus faibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la politique, de l'électoralisme, Aurélien, pour vous?
Moi, c'était dans la période. Après, on n'en parlera plus. Alors que sur cette période-là, ils n'ont pas envie de taxer les plus ceux qui gagnent quelques milliards de dividendes, etc. Surtout, eux, il ne faut pas y toucher aujourd'hui, avant la période électorale. Ils feront peut-être les choses en fin de mandat. Mais voilà.
Bon, Aurélien, en tout cas, vous.
C'est toujours sur les mêmes comptables.
Bon, d'abord, bon anniversaire, parce que si vous avez 45 ans aujourd'hui, je vous adresse un message aussi de chaleureux. Vous nous disiez que la durée d'indemnisation, en effet, elle a été diminuée, passée de 24 à 18 mois. Elle pourrait elle-même descendre à 12 mois. C'est bien ce qui est en jeu aujourd'hui. Merci, Aurélien, de ce témoignage aussi, qui va dans votre sens, Olivier Guivarche, pour la CFDT, qui représente aussi l'intérêt des travailleurs et inquiétude autour de cette nouvelle règle d'élaboration donc sur l'assurance chômage. Il est 12h20.
Ma France sur France Bleu. Votre quotidien, vos solutions.
Et nous l'avons tous constaté dans notre quotidien pour le coup. Après une météo très douce, début avril, les températures ont dégringolé jusqu'à moins 3 dans le Jura où nous attend dans quelques secondes un viticulteur. Dans les vergers aussi, les récoltes sont menacées parce que les arbres fruitiers ont déjà bourgeonné. Bonjour, Serge Zaka est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, climatologue aussi, vous êtes à l'affût de cet épisode de gel qui est somme toute, Serge Zaka, assez classique mais particulièrement redoutable compte tenu justement de l'avance de la végétation.
Exactement, en fait je suis agroclimatologue.
Je cherchais la bonne...
de l'agriculture, sur l'impact du climat sur l'agriculture. Alors effectivement, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Hein. Le gel que nous avons eu ces derniers jours est certes pas habituel, surtout ces 20 dernières années, pour une fin avril. Il faut remonter jusqu'à 97 ou 91 pour avoir aussi froid fin avril. Cependant, on n'a battu qu'un seul record de froid pour un mois d'avril lors de cet épisode de gel. Par contre, nous avons battu plus de 250 records de chaleur entre le 1er et le 15 avril. Et c'est là où est le problème, puisque ces 250 records de chaleur ont fortement avancé le développement des végétaux. Un végétal qui a le bourgeon fermé, c'est à peu près moins 20 degrés de résistance. Un végétal qui a à peine le bourgeon ouvert, c'est entre moins 8 et moins 5. À la floraison, c'est autour des moins 2. Et puis, au stade petit fruit, on le retrouve généralement en ce moment en France, c'est moins 0,5. Donc les végétaux sont de plus en plus sensibles plus le stade de développement avance.
Merci de ces précisions. Voilà pourquoi les dégâts peuvent être très conséquents. Il n'y a aucun territoire quasiment qui a été épargné par cet épisode de gel qu'on dit tardif.
Alors si, on a quand même des épisodes, des territoires qui ont été épargnés, notamment autour de la Méditerranée, puisqu'on a vu le Mistral qui soufflait, surtout dans la vallée du Rhône, et le Mistral a tendance à brasser l'air et à éviter que l'air froid se dépose au niveau du sol. Par contre, sur toutes les autres régions, oui, on retrouve des gelées. Et là, c'est un peu compliqué, puisque en fait, l'air froid étant plus dense que l'air chaud, il va aller vers le fond de vallée. Donc parfois, on peut avoir des 3-4 degrés de différence à quelques kilomètres. Donc c'est vraiment très hétérogène, les dégâts sur le territoire. C'est surtout dans les microclimats, mais ça les agriculteurs ont l'habitude de travailler avec ces microclimats et les connaissent bien.
Les vignerons craignaient, Serge Zaka, un scénario catastrophe cette nuit. Je voudrais que nous nous rendions dans le Jura notamment. Nous sommes à Arbois avec vous, Hervé Ligier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes monsieur viticulteur. Qu'est-ce que ça donne chez vous à Arbois, sur ce territoire bien touché ces dernières années?
Chez nous, à Arbois, comme dans le reste du Jura, le gel que l'on a pu subir cette nuit a des conséquences quand même assez importantes. Il est encore un petit peu trop tôt pour faire un bilan précis. Mais c'est vrai qu'on voit déjà des parcelles qui sont très fortement impactées. On sait que la végétation va encore évoluer dans la journée, voire même peut-être demain. Pour l'instant, c'est vrai qu'on subit un épisode de gel quand même puissant.
Oui, on parle toujours de ce gel ennemi, évidemment, des viticulteurs, des arboriculteurs en particulier, avec cette avance de la végétation. Tout le vignoble jurassien est touché, Hervé Ligier. Et vous craignez aussi de nouveaux coups de gel dans les nuits prochaines ?
L'ensemble du vignoble jurassien est touché, oui, ça c'est sûr, d'après les retours que j'ai. Et la nuit prochaine s'annonce encore froide. Donc on verra, les parcelles qui ont résisté cette nuit vont peut-être subir à nouveau des dégradations. Ça, c'est encore, on verra demain ce qui va se passer.
Ouais,
on verra. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, d'autant plus que dans le Jura, depuis 2017, c'est la quatrième fois que l'on subit des dégâts importants de gel, 2017, 2019, 2021, cette fois-ci 2024. Donc ça impacte très fortement les exploitations et le moral des vignerons.
Avec la difficulté de lutter, évidemment, contre le froid, on peut si peu faire. Alors il y a des méthodes qui existent, évidemment, comme le fait de disposer des bougies au pied des vignes pour réchauffer l'air. En tout cas, certains agriculteurs se prémunissent comme ils le peuvent face à ces menaces. Hugo Deschamps, vous avez rencontré pour France Bleu Loire Atlantique Bernard Maillard. Il est viticulteur à Saint-Lumine-de-Clisson. Et après un épisode similaire, d'ailleurs en 2021, il a fait installer une tour anti-gel sur ses parcelles.
Il faut faire un bout de chemin en camion entre les vignes pour rejoindre son installation. Elle est située en plein milieu de son exploitation de 25 hectares.
C'est ça, là, c'est la tour anti-gel.
Alors ça ressemble à une éolienne de 10 mètres de haut et Bernard nous montre comment ça fonctionne.
Ça va faire un peu de bruit, c'est tout. Bah en fait, l'hélice, elle va tourner à très vive allure et c'est justement à ce moment-là que ça va brasser l'air en fait, quoi. En gros, on va prendre l'air qui est un petit peu plus chaud en haut, qui va venir se plaquer au sol. On va faire un brassage continuel en fait, quoi.
Par exemple, lorsque le thermomètre affiche zéro au sol, l'air ramené par l'hélice dépasse les 2 degrés. Et pour le viticulteur, c'est bien plus pratique que les traditionnelles bougies.
La mise en place des bougies, bah, c'est toujours un peu de boulot, quoi. Alors que là, bah, la tour anti-gel, elle va se mettre en route automatiquement s'il y a besoin.
Et la tour est reliée à une sonde qui mesure la température. Alors tout ça, ça a un coût, 63 000 euros avec quelques aides. Mais pour Bernard, se protéger du gel est devenu une priorité. En 2021, par exemple, il avait perdu la moitié de sa production à cause de ça.
On essaye tous de s'y préparer du mieux qu'on peut. Les stations météo, on les regarde 4 fois par jour. Le risque de gel, c'est un stress.
Cette tour anti-gel protège seulement 4 hectares sur son exploitation. Il songe donc à en faire installer une deuxième.
Merci Hugo Deschamps pour France Bleu Loire-Océan. Alors je ne sais pas Hervé Ligier, si vous disposez vous de ce type de moyens de protection très onéreux mais qui permet parfois de sauver des récoltes. Vous qui êtes viticulteur, je le rappelle, à Arbois dans le Jura.
Oui, à titre personnel, on a disposé, mis en place des bougies oui. Hier, que l'on a allumées cette nuit. La protection parfois fonctionne, j'espère que cette fois-ci ça a fonctionné. En 2021, on l'avait essayé aussi et ça a été totalement dépassé par la puissance gel constatée en 2021. On a aussi des voisins qui ont des éoliennes, on va voir là si ça a été positif en termes de résultats de protection. Mmh. Mmh. Mais il n'y a pas de protection chez nous qui soit réellement à 100% qui permettent de garantir
bien sûr.
Une protection à 100%, si vous voulez.
Merci, bon courage Hervé Ligier, vous qui êtes dans le Jura, qui représentait aussi la société de viticulture du Jura, voilà, avec ses exploitants qui sont dans une inquiétude que l'on peut comprendre aujourd'hui. Serge Zaka, on vient de parler des méthodes pour se protéger. Alors évidemment, grossièrement contre la nature, en général, on ne peut pas faire grand-chose, mais ces méthodes existent, des adaptations aussi de ces arbres, de ces vignes au climat changeant sont aussi en élaboration.
Effectivement, pour le gel, ça reste compliqué parce qu'on parle de, généralement de méthodes de lutte,
oui.
parce que ce sont pour l'instant les moyens les plus efficaces, notamment les tours avant, les bougies, les fils chauffants, l'aspersion, etc. Donc on protège, mais pas forcément à 100%. Par contre, il y a d'autres façons de protéger aussi l'agriculture qui ne sont pas seulement dépendants de l'agriculteur. Il y a par exemple d'investir sur les moyens efficaces de prévention de ces risques climatiques, c'est-à-dire peut-être des seuils d'alerte, de vigilance, comme on peut retrouver chez Météo France, mais pour l'arboriculture et la viticulture, donc de prévention pour mieux se préparer à ces risques-là, avec des descentes plutôt à l'échelle locale qui demandent des moyens qui dépendent plutôt de l'ordre de l'État. Ensuite, on peut avoir des investissements aussi qui dépendent pas forcément que des agriculteurs, mais également de toute la chaîne de l'agroalimentaire et de l'État, sur du matériel végétal nouveau qui permettent de débourrer soit plus tard, mais il faut faire attention, il faut qu'il soit aussi résistant aux sécheresses et aux canicules en été, donc l'équation à une solution qui est très complexe. Et le dernier point, c'est peut-être de nouvelles espèces, donc de nouvelles espèces plus résistantes. La pistache, par exemple, qui a subi quelques gels cependant du côté d'Avignon. La pistache débourre, par exemple, 2 semaines plus tard que l'abricot, est plus résistante aux fortes chaleurs et aux sécheresses en été. Mais encore une fois, en agriculture, lorsque le climat change, puisque notre agriculture a prospéré et s'est développée dans un climat qui lui était favorable pendant plus d'un millénaire, et ben lorsque le climat change aussi vite, il est très difficile de trouver une solution qui soit simple et efficace et qui résonne sur beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y a pas que le gel, il y a aussi tous les autres événements météorologiques. Oui. C'est très compliqué, et je tiens à préciser que ça ne dépend pas, et que ça ne doit surtout pas dépendre uniquement des viticulteurs et des arboriculteurs, qu'il faut aussi mettre d'autres personnes dans cette chaîne de décision.
Oui, vous en parlez régulièrement d'ailleurs comme agroclimatologue. Merci beaucoup Serge Zaka. On va changer de territoire, nous étions dans le Jura et en Loire-Atlantique, et nous sommes désormais dans les Alpes de Haute-Provence avec vous, David Ayot. Bonjour David.
Bonjour.
Vous êtes installé à Curban sur l'exploitation familiale. Que produisez-vous et quel est l'état surtout de votre domaine ce matin?
Alors, David Ayot, producteur de pommes, de poires essentiellement. Et l'état, eh bien, mitigé, on fera le bilan après ces deux nuits à venir.
Oui, vous avez été, diriez-vous, un peu épargné par cet épisode de gel tardif?
Eh bien, jusqu'à maintenant, oui. Après, ce qu'on constate sur la zone, c'est qu'on a une grande disparité d'altitude et la végétation est assez homogène. Donc, c'est vrai qu'on a des coins qui sont même pas très loin qui ont subi plus fort que nous le gel.
Oui. Ce qui est certain, c'est que c'est pour vous plusieurs jours encore à tenir sur le qui-vive pour surveiller et pour protéger comme vous le pouvez vos productions.
C'est bien ça.
C'est bien ça, et ce n'est pas nouveau, j'allais dire, parce que ce gel tardif, malheureusement, vous y êtes confronté régulièrement, et puis vous serrez les dents, vous, hein, jusqu'au sein de glace, prévu les 11, 12, 13 mai. Là encore, c'est classique, mais redoutable.
Alors, il y a les seins de glace, il y a les anciens qui nous parlaient aussi de la lune rousse, où on est en plein dedans. Donc voilà, c'est la pleine lune, et on commence la lune descendante dans quelques jours. Donc après cette lune et les seins de glace, on essaie normalement, on devrait être épargné.
Ouais, c'est toujours une période sensible et cruciale pour vous, hein, que ces mois d'avril et mai, David Ayot.
Éternellement.
Bon, eh bien, écoutez, bon courage aussi à vous. Je ne sais pas si vous avez un petit message à passer à vos confrères, à vos collègues qui vous écoutent aussi, David Ayot.
Un message de soutien et de solidarité. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Serge Zaka.
Ah, voilà. Merci beaucoup. Décidément, tout le monde fait son anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup, David Ayot, d'avoir été là aussi pour témoigner de cette situation, de cette vigilance qui est la vôtre comme exploitant après ces épisodes de gel tardif qui se prolongeront probablement par à coup jusqu'au sein de glace. Il est 12h31, on se retrouve dans un instant dans Ma France. On va fêter le livre, la lecture, Strasbourg désignée capitale mondiale du livre. À tout de suite.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Toute la musique que vous aimez est maintenant disponible partout et tout le temps sur la nouvelle radio musicale en ligne de France Bleu, 100% chansons françaises. 100% chansons françaises. De Cabrel à Angèle, de Goldman à Woolsey, de Juliette Armanet à Johnny Hallyday. Découvrez 100% chansons françaises à tout moment sur francebleu.fr, sur l'application ICI, ICI et sur l'application Radio France.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ma France, sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Vous êtes à l'écoute de Ma France et nous sommes dans quelques secondes en duplex de Strasbourg pour fêter le livre et la lecture. Strasbourg désignée capitale mondiale du livre pour un an. Comment la ville va-t-elle vibrer à travers ce label de l'UNESCO attribué pour la première fois, sachez-le, à une ville de France? Eh bien, on vous en parle. Et si vous êtes lecteur, si vous aimez lire, faire lire, vous pouvez là encore témoigner au standard de France Bleu 0810 055 056.
Ma France sur France Bleu. Ça se passe bien chez vous.
Et avant de parler lecture, c'est votre quotidien. Ça se passe bien chez vous dans Lyon aujourd'hui. Où pour conjurer la réalité des déserts médicaux, un camion, le Family Bus, sillonne désormais les routes et les communes à la rencontre des familles et de leurs tout-petits. Les consultations sont gratuites, une demi-journée par mois. Et c'est donc le village de Trégny qui a ouvert la danse, Erwan Chassin.
Juste devant la mairie, impossible de le manquer.
Bonjour, bienvenue dans le Family Bus.
Un camion blanc de 7 mètres sur 3. Dessus est écrit en couleur Family Bus, service gratuit. Et à l'intérieur, Noémie Guénifet est infirmière au sein du service de protection maternelle et infantile du département.
Ça permet aux familles, même s'ils n'ont pas de médecin, de pouvoir faire suivre leur enfant, de pouvoir connaître le poids de leur enfant, leur évolution. Et grâce aux consultations de puériculture, effectivement, de savoir si tout se passe bien. Et... Ouais. Vous maintenez la tête et vous y allez comme ça pour que ça ressorte.
Des conseils qui est venu chercher sur rendez-vous Coralie, maman d'un tout petit bébé.
Pour des personnes qui n'ont pas de permis ou qui n'ont pas le moyen de transport, bah, c'est utile quand ça vient dans le village et on peut vite trouver de l'aide.
Il a été sage comme tout ce petit bonhomme.
Pour l'instant, l'infirmière ne fait qu'ausculter les enfants de 0 à 6 ans, donner des conseils. S'il faut aller plus loin, les parents peuvent être redirigés vers d'autres professionnels de santé.
L'idée, c'est qu'en fait, on accueille chaque personne qui va se présenter au bus.
Aurélie Robin est chargée d'animation au sein du Family Bus.
Aujourd'hui, nous sommes sur Trégny, mais les personnes aux alentours de Trégny, sur une autre commune, peuvent venir au bus. Parce que chaque personne a le droit d'avoir un suivi médical.
Dès septembre prochain, le Family Bus devrait intégrer des consultations de sage-femme en attendant celle de médecin.
Merci Erwan. Et on revient sur ce dispositif avec la vice-présidente du département de Lyon en charge des solidarités familiales et intergénérationnelles. Bonjour Elisabeth Fracetto.
Bonjour ma France.
Merci de cette adresse. À son niveau, ce bus veut faire revenir ces familles, on en a entendu certaines, dans le système de soins. Ce sont des familles qui n'ont pas toujours d'interlocuteur de santé, qui n'ont pas de pédiatre et qui ont des enfants en bas âge pour la plupart, Elisabeth Fracetto.
Mais oui, nous sommes un département où il faut effectivement aussi parler de fuite des médecins ou de non-installation encore confirmée. Et de ce fait, au titre de la prévention que nous voulons développer au maximum dans le département, eh bien, nous nous sommes intéressés d'autant plus à la protection maternelle et infantile. Et c'était pour nous l'idée de déployer sur tout le département des actions en direction de tous les parents, des futurs parents et de la santé des jeunes enfants.
Alors que toutes ces familles ne se rendent pas forcément dans les PMI fixes. Pourquoi vous allez au contact les...
Nous avons forcément des lieux de permanence, mais cette grande difficulté de mobilité que l'on retrouve aussi dans d'autres problématiques pour l'emploi, le retour à l'emploi, l'insertion, etc. Eh bien, nous avons souhaité aller à destination des familles au plus près de leurs besoins. Donc, dans un premier temps, nous avons choisi 29 communes, oui, qui sont donc les lieux de rencontre. Et puis, bien sûr, un petit bilan sera dressé et nous évoluerons en fonction des besoins qui vont être détectés.
Ce que vous voulez, c'est aussi créer un lien de confiance, suivre ces enfants de 0 Absolument. À 6 ans, on rappelle. Oui.
Absolument. Et il y a peu de pédiatres. Et donc, le suivi du développement de l'enfant, depuis la mesure, la pesée, le suivi des vaccinations, ça peut poser problème dès le début. Et ces rencontres peuvent aussi nous permettre de détecter des pistes de soucis autres qui peuvent dégénérer sur une reconnaissance de handicap qui aurait pu échapper. Et donc, c'est vraiment une volonté à la fois universaliste dans l'accompagnement et la détection et l'accompagnement de tous les problèmes qui peuvent se poser autour de la santé des enfants.
Eh bien, merci beaucoup. Elisabeth Fracetto, vice-présidente du département de Lyon, en charge des solidarités familiales. Et ça se passe bien chez vous, on l'a entendu, avec ce Family Bus engagé, vous le disiez, dans 29 communes de Lyon. Merci beaucoup aussi au concours de France Bleu Auxerre. Merci, madame. 12h36. Nous sommes le mardi 23 avril et Strasbourg devient pour l'année 2024 capitale mondiale du livre grâce à un label créé il y a quelques années par l'UNESCO et qui met en lumière la politique d'une ville en faveur de la lecture. C'est une candidature que vous avez portée, que vous avez travaillée dans le détail avec la maire de Strasbourg. Bonjour Anne Missler.
Bonjour.
Vous qui êtes adjointe à la maire de Strasbourg en charge des arts et de la culture. D'abord, cette journée consacre le début d'une année particulière et je crois que c'est beaucoup de fierté pour vous. Strasbourg devenant la première ville française à avoir ce titre, capitale mondiale du livre.
Oui, absolument. C'est une très grande fierté parce que, évidemment, nous, à Strasbourg, nous étions persuadés que nous avions non seulement une légitimité, mais une opportunité extraordinaire de faire, en candidatant à ce label, de faire mieux connaître encore l'importance du livre, de la lecture ici dans notre ville et qui s'adresse à l'ensemble de la population depuis le plus jeune âge jusqu'à, évidemment, à l'âge le plus avancé.
Légitimité pourquoi ? Pour quelle raison, Anne Missler ? Pourquoi Strasbourg a candidaté ?
Strasbourg a candidaté parce que elle a déjà une histoire un peu particulière avec le livre, sans remonter forcément jusqu'à Gutenberg, bien sûr, qui a évidemment imprimé ses premiers livres ici à Strasbourg et qui a permis la diffusion des idées. Mais sur Strasbourg, eh bien évidemment, nous avons un réseau de bibliothèques et de médiathèques extrêmement important, et nous avons la deuxième bibliothèque nationale, qui est la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg.
Absolument.
Et qui est un élément extrêmement important dans la, comment dire, l'édification de la pensée, j'exagère en disant ça, mais quand même, et qui a vu défiler quasiment toute la population au moment de ses études. Donc il y a un attachement très très fort aux bibliothèques, aux médiathèques, aux livres. Nous avons de très nombreuses librairies indépendantes à Strasbourg, et Strasbourg est une ville de lectrices et de lecteurs. Donc c'est vrai que il nous a paru tout à fait important, puisque l'UNESCO est très connue pour les capitales européennes de la culture ou pour le patrimoine mondial UNESCO. Nous avions souhaité faire connaître aussi l'importance du livre et de la lecture dans une ville comme Strasbourg en candidatant au label capitale mondiale du livre UNESCO.
Strasbourg, voilà. Et capitale mondiale du livre UNESCO, avec des Strasbourgeois, des Strasbourgeoises de cœur ou d'adoption qui aiment lire, vous le disiez, ce goût de la lecture qu'on aime partager. Eh bien, on va y aller tout de suite dans cette réalité, dans un club de lecture avec vous, Chloé Geoffroy, pour France Bleu Alsace. Nous sommes à la médiathèque André Malraux.
Et ça se passe au deuxième étage de la médiathèque. Une dizaine de personnes sont assises en cercle sur de beaux fauteuils rouges pour parler bouquins.
C'est un thriller, c'est glauque. Je lis ça dans le bus, c'est fou.
Luna, 24 ans, est la benjamine du groupe. Elle lit entre 2 et 4 livres par mois, une passion qui lui vient de ses parents.
J'avais ma maman qui lisait des romans, et mon papa, c'était des témoignages historiques, principalement de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, en fait, j'ai grandi déjà avec une famille qui était très lecteur.
Et tout ce qu'elle lit, elle le partage maintenant avec d'autres passionnés. Le partage et la transmission, c'est précisément pour cette raison que Jocelyne adore le club de lecture.
Il y a un peu tous les âges, il y a des gens qui parlent de new romance, de bande dessinée, de romans historiques, de science-fiction, de tout.
Chacun est libre de parler du genre qu'il souhaite, une liberté à laquelle tient beaucoup Delphine Idou-Thiébaud qui anime ce rendez-vous culturel.
Moi je sais que j'ai même déjà présenté des mangas, j'ai présenté des films, enfin voilà. C'est vraiment l'amour de la lecture, l'amour de la culture. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment la lecture à ce point-là.
Durée du club de lecture, 2 heures. Pour ceux que ça intéresse, ça a lieu un samedi par mois, de 11h à 13h.
Est-ce que vous participez aussi au club de lecture chez vous, dans vos territoires ? Appelez-nous, que vous soyez de Strasbourg ou d'ailleurs, bien évidemment. Vous êtes dans ma France, 0810 055 056. Ce que vous procure la lecture, le plaisir, le partage de cette lecture aussi, Anne Missler, parce que c'est un peu le but aujourd'hui de ce label UNESCO Strasbourg qui devient aujourd'hui, ce mardi 23 avril, et pour un an, capitale mondiale du livre, c'est aussi une manière de mettre en avant les initiatives pour diffuser la lecture, à la fois à Strasbourg, mais aussi en Alsace, Anne Missler.
Ah oui, absolument, et y compris au niveau transfrontalier, puisque avec notre ville voisine de Kiel, nous avons des partenariats. Kiel, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais Kiel avait édité en fait Voltaire à l'époque. Donc il y a des partenariats extrêmement intéressants qui sont développés. Et par exemple, à la fin de cette semaine, seront lus en français et en allemand des textes de livres et d'auteurs qui avaient été brûlés par les nazis. nazis à l'époque. Donc c'est aussi montrer à quel point le livre, véhicule de la pensée et du débat, oui, peut être parfois combattu de façon très violente, et on voit ça encore aujourd'hui à travers le monde. Donc on explore à travers ce label de capitale mondiale du livre, évidemment tous les aspects d'écriture, de lecture, d'illustration, parce que nous avons une école évidemment à Strasbourg, la Haute École des Arts du Rhin, qui forme des talents d'illustrateurs qui sont absolument très important, et donc c'est mettre en valeur tous ces atouts et vraiment s'interroger sur les questions de société aujourd'hui à travers le livre et par le livre, mais par la pensée, la circulation de la pensée, et bien sûr la question du respect des droits humains, de la liberté de pensée, d'expression et de diffusion de cette pensée, et donc du débat.
Oui, voilà. Très bien. Bah, tout ça est très, très précis et très complet. Vous parliez des qualités de Strasbourg, qui a été donc élue capitale mondiale du livre par l'UNESCO, avec le lien historique avec Gutenberg, avec la seule bibliothèque nationale en dehors de celle de Paris que vous avez sur votre territoire. Vous citiez aussi votre réseau de libraires extrêmement dynamique, les maisons d'édition qui sont très actives aussi, mais puisqu'on parle de libraires, on va pousser la porte de la bouquinette à Strasbourg. C'est une de vos librairies. Avec vous, Elodie Bundenborf.
Bonjour.
Bonjour, Elodie. Comment vous vous inscrivez dans cet événement, cette journée en particulier, et cette année qui s'annonce, cette capitale mondiale du livre à Strasbourg, chez vous?
Alors, dans cette journée, nous sommes présents au Palais des Congrès. Donc, on suit, là, je me suis éclipsée pour venir vous dire quelques mots, mais oui, on suit cette belle cérémonie. Et à partir de jeudi, va commencer la semaine, le printemps de la librairie indépendante. Mm-hmm. Donc, on aura une semaine d'événements dans l'ensemble des librairies de Strasbourg et de l'Eurométropole. Et nous, du coup, dans ce cadre à la bouquinette, on organise deux lectures de Camille Chibaille avec les éditions Calicéphale, samedi, à 14h et à 15h pour les enfants à partir de 4 ans.
C'est le printemps de la librairie, voilà, qui permet aussi d'associer toutes les générations. Vous disiez être présente au Palais des Congrès, grande cérémonie d'inauguration avec des auteurs présents, avec des éditeurs. C'est tout le monde du livre qui est réuni à vos côtés, Elodie Bumendorf.
Exactement, ça va des élus aux auteurs, en passant par, j'imagine, beaucoup de bibliothécaires et d'éditeurs, de libraires, d'acteurs du livre. On se rend compte que c'est un monde vaste et varié, et ça fait plaisir de voir tout ce monde.
Oui, pourtant il y a pas mal de chiffres inquiétants et qu'on essaye de combattre avec notamment des programmes, des dispositifs comme le vôtre, la lecture qui s'effondre chez les Français, les 16-19 ans qui consacrent seulement 1h20 par semaine à cette activité. Est-ce que vous le constatez ou au contraire vous voyez que bien on est bien au-dessus de la moyenne à Strasbourg en vérité?
Alors c'est une réalité, je pense, mais qui ne touche pas que les jeunes, mais bien évidemment leurs parents également. Les écrans ont pris une part importante dans notre quotidien. Après, il faut continuer à véhiculer du livre auprès des petits, leur apprendre que c'est un formidable lieu d'épanouissement, d'émerveillement constant, qu'on apprend, que communiquer plus aussi sur le fait que le cerveau se développe de façon très différente, qu'on ait lu ou qu'on n'ait pas lu. Ça devrait être une campagne de prévention
de santé mentale,
mettre en avant la lecture.
Oui,
exactement. Ouais, je suis complètement pour.
Vous êtes d'accord avec Elodie Bumendorf, j'imagine, Anne Missler, parce que c'est ici un partage aussi intergénérationnel que vous voulez mettre en avant, promouvoir avec ce label Capitale Mondiale du Livre à Strasbourg.
Oui, absolument, et permettre en fait à tout un chacun, à toute chacune, à travers le livre, quel que soit le type de lecture d'ailleurs. Nous avions fait une opération pour préparer cette année avec un photographe qui a pris en photo la population volontaire, donc du plus jeune âge au plus âgé, chacun avec son livre, préféré, pas forcément préféré, mais avec un livre, et il y a une grande diversité, et ce qui frappe, c'est la joie joie et le plaisir. C'est-à-dire que même parfois le livre de cuisine, ben ça peut être un moment de lecture. Eh bien, nous n'excluons aucun type de lecture parce que le livre c'est une fête. Et comme nous sommes à Strasbourg, c'est aussi la question des langues, puisque capitale européenne par ailleurs, bien sûr, ce sont non seulement toutes les langues européennes, mais toutes les langues qui sont parlées à Strasbourg, parce que c'est une ville cosmopolite,
oui,
qui a une population d'étudiants venant de l'étranger extrêmement importante, et en particulier du continent africain. Donc c'est vraiment une fête des langues que nous avons souhaitée, et à travers cette fête des langues, c'est aussi la question de la traduction, des traducteurs et traductrices, et donc de toutes les questions qui sont liées notamment non seulement aux droits d'auteur, de traductrices et traducteurs, mais aussi aux questions d'intelligence artificielle. Donc vous voyez que à partir de ce qui est le livre, qui peut être un objet, voilà, comment on arrive à dérouler un ensemble de réflexions.
Absolument, ouais.
De moments de partage.
Ouais. C'est vous, Anne Missler, qui parlez, adjointe à la maire de Strasbourg en charge des arts et de la culture. C'est vous qui avez poussé la candidature de Strasbourg pour ce label capitale mondiale du livre qui, aujourd'hui, intronise votre ville et pour un an dans cet effort et dans cet effet. Elodie Bubendorf, vous êtes toujours avec nous, avec la librairie, la bouquinette librairie indépendante, et vous fêtez aussi cette grande journée. On va s'installer dans une autre librairie, parce que Strasbourg en compte un certain nombre. Place Kléber, c'est l'une des plus grandes librairies de France, le Camphrier, 50 000 titres en rayon, et parmi eux, des mangas, une passion française, puisque nous sommes, Olivier Vogel, la deuxième nation à en lire le plus après le Japon.
La culture japonaise, c'est en haut, les mangas au sous-sol.
On descend.
Et si le manga marche aussi fort en France, Fabrice Dunis, le patron du Camphrier, y voit une raison majeure.
Dorothée, tout c'est de sa faute.
Car c'est dans son émission de télé Récréa 2 que les tout premiers dessins animés japonais ont été diffusés dès la fin des années 70.
Goldorak, on dit, puis après Dragon Ball, puis après Capitaine Flamme, etc. etc. Enfin, toute cette animation qu'on a adorée, nous, parents, étant jeunes. Et aujourd'hui, nos enfants, parce que moi j'ai 51 ans, j'avais 6 ans quand Goldorak est arrivé.
Missile Gamma!
Une passion que les désormais anciens ont transmise aux plus jeunes, comme Atina et Franck, 20 et 17 ans, deux clients du Camphrier.
J'ai acheté des shoujo. Et Thunder Earth, c'est de la romance. Actuellement, dans ma bibliothèque, j'en ai à peu près 900.
C'est vraiment le trait, le dessin et surtout la philosophie qu'il y a dedans. Ce qui me plaît, c'est beaucoup les seinen. Il y a beaucoup de violence. Il peut y avoir des choses pas très catholiques.
Mais aussi des choses bien plus classiques.
Les Misérables de Victor Hugo, au Capital de Karl Marx,
du Gustave Le Bon en psycho, enfin il y a des trucs de fou. Hein.
Les Français sont, après les Japonais, les plus gros lecteurs de manga au niveau planétaire.
Transfert !
Voilà, merci Dorothée. On va en parler avec Elodie Bubendorf, vous qui êtes libraire à la bouquinette à Strasbourg. La bande dessinée japonaise, c'est une passion française. Est-ce que vous vendez des mangas aussi chez vous ? Est-ce que vous voyez cet attrait, cet attachement ?
Alors il y a une vraie demande, effectivement. Nous, on est libraire spécialisé, j'ai bientôt 50 ans. On a un petit rayon manga. Je dis petit parce que les rayons manga deviennent très très vite très très grands,
oui.
Parce que c'est souvent des séries qui ne s'arrêtent jamais. Donc on essaye de faire une sélection de choses alors connues et puis peut-être un peu moins qu'on trouve un peu moins souvent aussi. Ça nous tient à cœur aussi de les lire et de pouvoir les conseiller parce que les parents ou les grands-parents sont souvent assez perdus devant ces rayons-là. Mais oui, on en a. Ouais.
Ouais, les mangas, comme d'autres littératures, les mangas qui amènent peut-être vers une autre littérature aussi, ça c'est la question. Et c'est un événement, en tout cas, aujourd'hui que nous fêtons à Strasbourg, qui devient pour un an capitale mondiale du livre, label UNESCO. C'est la première fois qu'une ville française obtient ce label et c'est une fête, vous l'avez compris, pendant une année. Une récompense, quelque part, qui doit vous ravir. Bonjour, Michel Bobby-Malzac.
Oui, bien sûr. Bonjour.
Bonjour. Vous qui êtes présidente, pardonnez-moi, je le dis, présidente, oui, du programme Lire et Faire Lire de l'association.
Oui, je voulais vous remercier. Je vous remercie d'avoir pensé à nous, surtout que nous sommes tellement ravis de pouvoir intervenir dans cette journée d'inauguration de Strasbourg, capitale du livre. Il faut savoir que nous avons l'Lire et faire lire une représentation locale de l'Lire et faire lire qui est impliquée dans les événements de toutes ces années. Mmh. Et puis pourquoi nous sommes si contents ? Eh bien c'est parce que la ville de Strasbourg, comme je l'ai entendu, s'engage à promouvoir le livre, la lecture, sous toutes ses formes, à tous les âges, pour lutter contre l'illettrisme et les inégalités. Et c'est l'objectif de notre programme. C'est pour ça que je suis si contente de pouvoir témoigner aujourd'hui de l'activité de notre association Lire et faire lire.
Voilà, programme national, je le rappelle, d'ouverture à la lecture, de solidarité entre les générations qu'a créé l'écrivain et l'auteur que nous saluons, Alexandre Jardin. Vous êtes très représenté aujourd'hui. Le principe, c'est que, et vous pouvez candidater d'ailleurs toujours, Michel Bobby-Malzac, chaque semaine, 30 000 retraités interviennent dans des écoles maternelles, primaires, pour transmettre le plaisir de la lecture. Ma petite fille en bénéficie, je peux vous dire qu'elle adore les bénévoles qui viennent lire à l'école. C'est un dispositif qui touche aujourd'hui hors temps scolaire, c'est énorme, quasiment 800 000 enfants. Et ça, c'est la grande
Exactement.
Réussite.
Oui, si vous voulez, quand Alexandre Jardin, l'écrivain, a eu cette idée, cette idée un peu qui partait d'une expérience brestoise, il a eu cette idée qui était de dire, voilà, on va créer un programme où ce sont des bénévoles seniors qui vont, donc plus de 50 ans, ils vont aller partager leur plaisir de la lecture avec des enfants. C'était considéré comme une idée complètement folle. Et il s'est dit, mais enfin bon, je peux pas y arriver tout seul. Quand même, il a été pour ça un tout petit peu raisonnable,
oui.
Ce qui n'est pas toujours son cas. Et là, il a été raisonnable. Alors il s'est dit, bon, ben, je vais aller voir la Ligue de l'enseignement qui s'occupe de l'éducation, et je vais aller voir l'Union nationale des associations familiales, deux grosses associations qui ont des relais départementaux. Et comme ça, dans toute la France, on a eu des relais départementaux, Lire et faire lire. Mmh. Et il y en a une, donc à Strasbourg, qui agit et qui promeut donc la lecture de nos bénévoles. Donc nos bénévoles, maintenant, ils sont presque 800 000 qui vont... ils interviennent auprès de 800 000 enfants et ils arrivent actuellement à aller dans 12 000 structures éducatives. Ça veut dire les écoles en majorité. Mais on pense toujours à des écoles, mais non. Ils vont dans les structures de la petite enfance. Ils lisent à des bébés. On lit maintenant à partir de 12 mois à 12 ans.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ça, c'est
et
très
on
bon.
Lit
ouais.
Dans les accueils de loisirs, dans les bibliothèques, dans les collèges, dans les centres sociaux. On sait vraiment énorme. C'est un véritable succès.
Oui, et vous prenez, pardonnez-moi, Michel Bobby-Malzac, avec c'est Alexandre sûr. Jardin, vous prenez une nation de lecteurs. Et c'est au cœur, je vais vous libérer parce que la grande cérémonie et la photo d'inauguration va avoir lieu dans quelques instants à Strasbourg. Anne Mitzler, c'est aussi vraiment l'engagement de cette année à Strasbourg, capitale mondiale du livre, de promouvoir peut-être aussi la lecture. Alexandre Jardin le dit, je ne sais pas si vous reprendrez ses propos, mais comme un grand médicament, comme une grande thérapie.
Ah mais évidemment, et d'ailleurs on travaille également à ce que la culture en quelque sorte soit sur ordonnance, comme on l'a fait pour le sport sur ordonnance.
Oui.
Et donc le livre et la lecture sont des éléments essentiels. Ça permet de se retrouver soi-même et d'être en connexion avec les autres et de sortir d'un isolement, même si quand on lit, on est complètement concentré sur ce qu'on lit. Mais ça fait rien, on est en connexion en fait, et par le rêve et par l'imagination, par la connaissance, par la découverte, par toute une série de choses. Donc oui, on est très heureux quand même et très fiers. Je le redis, mais c'est important pour nous.
Et on l'entend, voilà. Anne Mitzler, merci, en charge des arts et de la culture, adjointe à la maire de Strasbourg. Strasbourg pour un an, capitale mondiale du livre. Et ce titre aujourd'hui est octroyé. Les débuts des festivités commencent aujourd'hui, mais aussi jeudi avec le printemps de la librairie. Nous en parliez, Elodie Bubendorf. Un petit mot, Elodie, vous qui êtes libraire à la Bouquinette, une des librairies de Strasbourg, parce qu'on en parlait avec la présidente du programme Lire et faire lire, cette nécessité de lire et de partager cette lecture. Dès le plus jeune âge, ces bénévoles racontent des histoires à des petits de 12 mois. Voilà, ça c'est le principe aussi d'une nation de lecteurs telle que vous l'anticipez, vous l'abordez.
Exactement, c'est vraiment notre travail au quotidien de former les lecteurs de demain, de donner envie. Quand on lit un livre à un petit, on se laisse pas parasiter par autre chose. C'est avant tout du lien au moment où la lecture se fait avec un enfant. Et c'est assez unique, je pense, comme activité, la lecture pour les petits. Et puis on forme les lecteurs de demain. C'est du mimétisme après, les enfants. Donc, si on leur a lu, ils vont lire aussi. Même s'il y a des moments où l'adolescence passe par là et il y a des choses qui peuvent s'éloigner un peu, mais j'ai bon espoir que une fois la graine plantée. La suite arrive.
Quoi. Et c'est aussi la vertu, Michel Bobby-Malzac, de votre association Lire et Faire Lire, c'est de rendre la lecture accessible, en fait, accessible à tous.
Oui, et j'aurais bien voulu faire un appel aux bénévoles, à tous les gens qui ont envie de partager leur passion de la lecture. Venez nous rejoindre, nous en avons besoin. Et j'aurais bien aimé une petite citation d'un de nos parrains, un ami d'Alexandre Jardin, Eric Orsena, qui dit « Ouvrir un livre, c'est comme hisser la voile ». C'est le début d'un départ. Et je trouve que cette belle citation, elle va donner à tous l'envie de pouvoir se battre pour effectivement ouvrir un livre.
Alors ouais. Michel Bobby-Malzac, vous lancez ce très bel appel au bénévolat. Comment ça se passe? Quels sont les critères pour devenir bénévole pour l'association Lire et Faire Lire et pour échanger aussi ce plaisir de la lecture?
Il n'y a qu'un seul critère, avoir plus de 50 ans. Mm-hmm. Nous avons des bénévoles de tous les milieux. Et contrairement à ce que certains pensent, non, il ne faut pas être enseignant pour devenir bénévole de Lire et Faire Lire. On vient de là où on est. Et nous, en tant qu'association, nous formons les bénévoles. C'est-à-dire, on leur fait rencontrer des bibliothécaires qui vont leur dire un peu comment il faut lire, ce qu'il faut lire. On leur fait rencontrer des comédiens pour qu'ils apprennent à lire à voix haute. Parce que nos bénévoles, ils n'ont à lire, partager leur plaisir de lecture qu'avec des petits groupes.
Des petits groupes, oui. Et il faut être un petit peu disponible, au moins un petit peu disponible, c'est combien?
Une fois par semaine.
Une fois par semaine,
ouais. Une fois par semaine, voilà, une demi-heure, une heure, et on va dire dans les différentes structures. Ce qui compte, et pour nos bénévoles, c'est ça le plus important, c'est qu'ils sont heureux, et vraiment, je peux vous témoigner de leur bonheur, de venir lire à des enfants et de partager ce plaisir qu'ils éprouvent à lire et pour que les enfants plus tard aient aussi eux envie de lire. Voilà.
Merci beaucoup et on avait plaisir aussi à mettre en lumière cette association, ce programme national magnifique Lire et Faire Lire que vous représentez à Strasbourg comme ailleurs, Michel Bobby-Malzac, avec cet appel aux bénévoles. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez consacrer une demi-heure, une heure par semaine à cette lecture partagée avec les enfants de 12 mois à 12 ans. Et ben ça, c'est absolument magnifique et ça consacre aussi ce que l'on disait autour de Strasbourg qui est officiellement et pour un an capitale mondiale du livre. Merci à vous tous, merci de votre fidélité, chers amis. On se retrouve demain dans Ma France à partir de midi et tout de suite, évidemment, sur France Bleu, ça continue. Ça continue avec le grand Willy Rovelli et son équipe. Bonjour Willy.
Bonjour Wendy, comment on va aujourd'hui?
Je vais très bien, on a voyagé dans le plaisir de lire et je crois que ça va bien se passer avec vous.
On va continuer à voyager, je suis à Châtillon-sur-Loire, sur la Loire, sur un bateau avec un couple pas banal. À tout de suite.
À tout de suite.
Ciné, théâtre, télé, humour, toute la culture est chaque soir sur France Bleu.
Samedi sur M6.
David Lantin.
C'est un nouveau rendez-vous que mon invité de ce soir vous donne chaque samedi à 17h45 aux côtés d'une certaine Ophélie Meunier. La Grande Semaine, c'est le nom de ce nouveau talk show qui vous promet un regard différent sur l'actualité et autour de la table. Entre autres, Baptiste Desmontiers, il est mon invité ce soir sur France Bleu.
La scène culture sur France Bleu, chaque soir dès 20h30.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
Vous êtes à l'écoute de votre premier grand média de proximité. Vous êtes sur France Bleu. Et voici toute l'info parce qu'il est 13h. À demain.